tous les premiers mardis de chaque mois.
Les Rendez-vous de la Peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
À 19h sur l'autre radio.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de la Peste, l'émission de l'économie sociale et solidaire qui met en avant les activités et les acteurs et actrices de l'ESS en Mayenne. Je m'appelle Jeanne Rosier et je suis chargée d'accompagnement et de développement au sein de l'association APES 53. Nous sommes ce soir avec Saïd Abouali, qui est directeur général d'Alternatrice 53, une structure d'insertion par l'activité économique qui œuvre dans le traitement des déchets, et avec Anne-Sophie Brien, qui est la cofondatrice de l'entreprise Les Pieds sur Terre, qui gère et valorise les biodéchets en compost pour l'agriculture locale et durable. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Jeanne.
Bonsoir.
Vous travaillez ensemble actuellement sur la structuration d'une filière biodéchets en Mayenne via le compostage et la méthanisation. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de ce projet, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelques définitions. En quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est un biodéchet et me donner quelques exemples ?
Alors, un biodéchet, on en a tous les jours autour de nous, puisqu'en fait, ça regroupe les déchets de la cuisine, donc les déchets alimentaires qui servent à la préparation des repas, des restes alimentaires qui ne peuvent pas se consommer, par exemple un noyau, une peau, un os, voilà, ou des restes de plats qu'on ne peut plus consommer. On en trouve aussi dans le jardin, puisque dans la famille des biodéchets, on intègre aussi les végétaux du jardin, les feuilles mortes, les branchages, etc., rentrent dans la famille des biodéchets.
Merci. Et pour toi, comment est-ce que tu définirais le compostage ?
Alors le compostage, en fait, c'est un procédé naturel de décomposition de la matière organique qui consiste en fait à mélanger donc un biodéchet alimentaire avec un déchet végétal du jardin. Et ce mélange de matière azotée et carbonée dans un contexte de décomposition en aérobie avec de l'oxygène permet une décomposition naturelle en quelques semaines, en quelques mois de cette matière qui devient du coup du compost.
Et donc la méthanisation, pareil, une petite définition rapide.
Oui, je vais à ce moment-là prendre la parole. Je tiens d'abord à excuser l'absence de notre ami Paul Laurent, qui devait être avec nous et qui est un spécialiste d'ailleurs de la méthanisation. Il aurait pu en parler bien mieux que moi. Je reviens un tout petit peu sur le biodéchet. Le biodéchet, ça intègre aussi tout ce qui est déchets d'industrie qui ont servi à préparer de l'alimentaire ou des restes qui ne sont plus du tout consommables également. Donc il y a beaucoup d'industriels qui produisent un certain nombre de biodéchets. Alors sur la partie méthanisation, on a en France un développement très fort de la méthanisation agricole qui consiste notamment à faire fermenter les déchets des agriculteurs pour pouvoir produire du gaz et ensuite utiliser le digestat, le reste, pour l'épandre sur leur terrain. Alors on peut effectivement faire fermenter les déchets des agriculteurs, mais on peut faire fermenter aussi tout ce qui est biodéchets, tout ce qui est également déchets de tonte et ce genre de choses.
Et je voudrais juste préciser, donc, si je ne me trompe pas, il me semble que la méthanisation, à l'inverse du compostage, se fait en milieu anaérobie, donc sans air.
Privé d'air, exactement.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Donc on a des produits, des résidus différents. Il faut savoir que depuis début 2024, la législation rend obligatoire le tri à la source et la valorisation des biodéchets pour tous. Cela veut dire que ces biodéchets doivent être donc soit compostés, soit méthanisés, au lieu d'être incinérés ou enfouis, ce qui est le cas le plus souvent encore aujourd'hui. Je rappelle aussi que les biodéchets correspondent à environ un tiers de nos ordures ménagères, quand ce n'est pas plus, et représentent donc une quantité non négligeable de matière à traiter. Et je crois que c'est partant de ce constat que vous avez initié, fin 2022, il me semble, ce projet de structuration de la filière des biodéchets en Mayenne, en partenariat donc avec l'entreprise De l'Assiette au Champ. Et est-ce que vous pourriez d'abord me présenter ces trois structures, donc De l'Assiette au Champ, Alternatrice 53 et Les Pieds sur Terre, et puis ensuite nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez lancé ce projet ?
Alors, nous, en tant qu'Alternatrice 53, on a lancé notre activité de collecte de biodéchets depuis 2020, début 2020 exactement, puisque déjà à ce moment-là, on commençait à entreapercevoir cette obligation qui allait arriver de collecter, de trier les biodéchets. Bon an mal an, on a réussi à avoir des clients au fur et à mesure. Et là est arrivée quand même une difficulté qui est celle de transporter nos biodéchets jusqu'à Château-Gontier, puisque c'est le seul méthaniseur en Mayenne qui possède une hygiénisation et donc qui est capable de recevoir des biodéchets contenant notamment du carnet. Et cette distance de 30 km nous embêtait en termes de transport, donc on a essayé de trouver des partenaires pour pouvoir valoriser les biodéchets que l'on collecte autrement. Et on est rentré en contact avec les Pieds sur Terre, que je laisserai Anne-Sophie tout à l'heure décrire exactement leur process, pour essayer de voir aussi si on ne pouvait pas composter les biodéchets qu'on collectait. On s'est rencontrés en 2021, de mémoire, fin 2021. Et puis ensuite, j'ai été contacté par De l'Assiette Champ et qui proposait cette idée intéressante qui était de dire on peut faire un pré-traitement de nos biodéchets et faire en sorte ensuite de les distribuer à des méthaniseurs agricoles les plus proches. Et on en avait autour de nous, notamment à Saint-Berthevin. Donc là est venue vraiment l'idée de se dire on peut raccourcir le transport de nos biodéchets plutôt que de les emmener jusqu'à Château-Gontier, de les laisser à Saint-Berthevin. Et pour ça, l'idée de l'assiette champ était d'installer sur notre site un déconditionneur et un hygiéniseur qui permet en plus d'augmenter les quantités que l'on collecte, notamment en collectant des biodéchets emballés. Voilà pour ce qui concerne Alternatrice 53. Pour De l'Assiette Champ, mais ils ont démarré une activité à Nantes avant de vouloir s'étendre sur d'autres départements. Ils ont aujourd'hui un outil qui fonctionne à Nantes avec un déconditionneur et un hygiéniseur sur le même principe, c'est-à-dire que vous avez des collecteurs qui leur apportent les biodéchets, eux ils font ce pré-traitement et ensuite, une fois traité, le biodéchet va chez des méthaniseurs agricoles. Et ensuite le process dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fabrication de gaz et de digesta qui repart ensuite en épandage. Je laisse Anne-Sophie pour la partie compostage.
Donc l'entreprise Les Pieds sur Terre est une entreprise basée dans le sud Mayenne, à Bouchamp-l'Écran exactement. Cette entreprise, elle est née il y a 3 ans. Je suis associée avec Maxime Aubois sur ce projet. L'idée est venue en effet, quand on a pris conscience de cette réglementation, c'était de se dire, mais aujourd'hui, quelles sont les solutions du territoire qui existent? Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait peu et que du coup, il y avait vraiment une solution à apporter à tous ces producteurs de biodéchets, qu'ils soient typés professionnels ou particuliers. Puisque du coup, cette réglementation, la dernière échéance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est au 1er janvier 2024 pour tous. Mais avant cela, il y a eu d'autres échéances en fonction des tonnages des producteurs. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart n'avaient pas encore agi, alors qu'en fait, ils étaient déjà concernés par cette réglementation depuis un certain nombre d'années, faute de solutions. Voilà. Donc nous, en fait, ce qui nous a vraiment animés dans la création de cette entreprise, c'était d'apporter en fait un service qui aille en gros du diagnostic, hein, puisqu'aujourd'hui un producteur de biodéchets ne savait pas forcément qu'est-ce qu'il pouvait produire à l'année. Le réflexe c'était de mettre aux ordures ménagères mais sans vraiment quantifier. Donc d'apporter une solution de diagnostic pour vraiment aider les établissements à maîtriser, voire les accompagner à diminuer leur production. Et puis ensuite, une solution de tri avec la mise à disposition de bacs, une solution de collecte. Parce que on se rend compte que malgré tout, en fait, composter en établissement, c'est possible, mais il y a un certain nombre de conditions à réunir qui sont souvent difficile à réunir. Donc la solution de collecte est quand même un service qui reste important. Et puis après, du coup, la solution de valorisation en compostage pour des agriculteurs nous a paru naturelle parce qu'on s'est rendu compte dans notre étude de marché que même en Mayenne, territoire d'élevage, on a un certain nombre d'agriculteurs qui sont maraîchers ou qui font de la céréale sur la petite surface, qui sont très limités forcément en intrants sur leur sol. Et le compostage de biodéchets alimentaires répondait à cette à ce besoin. Et donc, partant de là, en fait, on n'est surtout pas rentré en opposition avec la méthanisation, mais plutôt de se dire que, dans tous les cas, en fait, il y a différents gisements, différents besoins, et que des solutions complémentaires pouvaient vivre sur le même territoire. Et donc, partant de là, on a démarré notre activité, il y a même plus de 2 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, on accompagne notamment des établissements scolaires, des cuisines centrales, des établissements de santé, des restaurateurs, des restaurants d'entreprise, sur l'ensemble de la Mayenne.
Et Anne-Sophie, tu as dit que quand vous avez fait votre étude de marché, vous avez vu qu'il y avait peu de solutions de traitement des biodéchets jusqu'alors. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour un biodéchet aujourd'hui s'il n'est pas collecté, valorisé comme ça ? Quelles solutions sont sur le territoire déjà ?
Alors, la solution ancestrale, c'est de mettre les biodéchets aux ordures ménagères. Donc, ce qui était encore possible jusqu'à ce qu'il y a peu. Donc, la particularité du département de la Mayenne, c'est d'avoir la compétence de traitement des déchets. Et donc, aujourd'hui, la plupart des ordures ménagères en Mayenne sont traitées dans l'incinérateur de Pontmain. Donc en fait, aujourd'hui, il faut des solutions de territoire et l'incinérateur est une solution. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'aujourd'hui, un biodéchet est majoritairement composé d'eau et que jusqu'alors, ça allait être dans un incinérateur, c'est là qu'on prend conscience que finalement, le biodéchet n'a pas sa place dans un incinérateur. Encore une fois, l'incinérateur, on en a besoin pour plein d'autres choses. Et puis, en plus, il génère de la chaleur localement, etc. Donc, c'est fort intéressant, mais pas forcément pour le biodéchet. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup la solution qui était utilisée sur le département de la Mayenne. Après, il y a de gros acteurs aussi du déchet qui venaient parfois sur des gros établissements, on va dire. Et puis, sinon, le compostage sur site était expérimenté aussi quand même par certains établissements avec les freins aussi que ça pouvait apporter.
Donc oui, si je comprends bien, en fait, cette initiative que vous êtes en train de porter, elle vient répondre à différents enjeux, en fait, à la fois des enjeux de transport pour pas faire voyager les biodéchets sur des dizaines, c'est pas des centaines de kilomètres, une production d'énergie renouvelable via le biogaz dans le cadre de la méthanisation. Un retour au sol avec aussi le digesta et puis le compostage mis à disposition des agriculteurs du territoire, si je comprends bien. Et puis, dans tous les cas, en fait, l'arrêt de l'incinération de ces déchets qui sont humides, finalement.
Effectivement, là, tu viens de résumer exactement la chose, sachant que pour Alternatrice 53, ça rentre vraiment dans l'éthique de l'esprit, en tout cas, de la mission d'Alternatrice 53. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé comme si tout le monde connaissait Alternatrice 53 parce que je suis passé à ce micro il y a quelque temps. Mais Alternatrice 53 est donc une association chantier et entreprise d'insertion. Donc, on œuvre dans le domaine du social pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Et on emploie ces personnes sur des métiers de l'environnement. Donc, l'environnement au sens global, c'est-à-dire l'environnement des personnes. Donc, la propreté et ménage, notamment de leur environnement de vie, l'entretien des espaces verts, toujours de l'environnement de vie dans les quartiers de la ville de Laval et de Laval Aglo. Et puis, la collecte et le tri des déchets divers types. Hein. On collecte et on trie du carton, du papier, du plastique, des mobiliers de bureau, du bois, enfin, tout genre de déchets, et donc du biodéchet. Ça rentre vraiment dans la mission que s'est donnée l'association, hein, dans son objectif, qui est de collecter des déchets et de les valoriser le plus près possible de leur production. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart de nos exutoires sont, pour les plus lointains, notamment pour le papier et le carton, sont dans le Grand Ouest, au maximum à 250 km de chez nous. Donc, on veut faire exactement la même chose pour le biodéchet, c'est de faire en sorte que la Mayenne dispose de sa filière de biodéchets pour éviter que ces biodéchets ne partent à l'extérieur du département, en Loire-Atlantique ou en Maine-et-Loire, voire parfois un peu plus loin.
Mmh. Oui, Et donc, quels sont les objectifs de cette structuration de filière, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire, peut-être, structuration de filière ? Et qu'est-ce que vous espérez, en fait, qu'ils se mettent en place sur le département ?
Alors, ce qu'on aimerait, alors notre idéal, c'est de faire en sorte, en tout cas, d'apporter des solutions exhaustives pour le département. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec un certain nombre d'acteurs, nous deux déjà, entre les pieds sur terre de l'assiette champ et puis Alternatri. Mais on veut également associer des méthaniseurs, des producteurs, etc. Et puis le département, le conseil départemental, pour apporter, comme je le disais, les solutions les plus exhaustives possibles depuis la collecte jusqu'au retour à la terre. Et de faire en sorte que tous les déchets que l'on produit sur le département puissent devenir un vrai gisement de richesse, hein, de valeur pour les agriculteurs du département. Parce que les agriculteurs du département, et notamment les agriculteurs en bio, ont besoin de ces matières, ont besoin du compost, ont besoin de ce digestat pour qu'ils puissent nourrir et la terre et nourrir la plante. Hein, moi, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je caricature souvent en disant que le compostage vient nourrir la terre et le digestat du méthaniseur, une fois qu'il a produit du gaz, vient nourrir la plante.
D'accord. Effectivement.
Oui, je vais rebondir sur ce que disait Saïd à l'instant. C'est vrai que c'est important c'est pour ça que la complémentarité, c'est vraiment pour moi un mot très important dans cette association. Parce qu'en fait, il n'y a pas une solution qui peut convenir à tout le monde et d'avoir des solutions exhaustives sur l'ensemble du département, c'est important. Et je vais prendre un exemple concret. Nous, justement, pour une des actions que l'on défend pour limiter le transport, c'est que chez nos clients partenaires, dès qu'il y a une distance qui est jugée importante quand on est à l'opposé du département, eh bien en fait on fournit chez nos partenaires en fait du copeau de bois, du broyat de bois, ce qui permet vraiment de stabiliser la matière sur site, pour que la matière ne fermente pas, que ça ne crée pas de nuisance. Ça fonctionne très bien. Et grâce à ça, en fait, ça nous permet d'espacer le rythme des collectes. Donc voilà, c'est un exemple concret en fait, de dire ben, ça, cette solution-là, elle est possible quand on a un retour, une valorisation en compostage. Eh bien, elle sera adaptée à certains établissements. Pour d'autres, qui auront, comme le précisait Saïd tout à l'heure, besoin d'un déconditionnement. Quand on s'adresse à des commerces, etc., on a souvent des biodéchets qui sont enveloppés dans des films alimentaires, des films plastiques. Eh bien là, la solution du déconditionneur est vraiment la meilleure. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on parle bien de la matière biodéchet. Par contre, elle se présente sous vraiment différents formats. Et le tout, c'est d'apporter vraiment une solution qui réponde aux besoins des producteurs de biodéchets, où qu'ils soient et quelle que soit la structure.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel sera le parcours d'un biodéchet une fois que cette structuration sera faite, quel sera le parcours d'un biodéchet en Mayenne, donc depuis le producteur jusqu'au retour à l'agriculteur finalement ?
Alors pour les biodéchets qui sont très méthanogènes et qui sont emballés, on peut imaginer demain effectivement qu'ils arrivent à Saint-Berthevin où on va les mettre dans une machine qui s'appelle le déconditionneur pour séparer la matière organique de la matière plastique, carton, métal, parce que ça peut également déconditionner des boîtes de conserve, des pots de yaourt, etc. Une fois déconditionné, ça passe dans un hygiénisateur, ce qui va faire monter en température de manière à tuer tous les pathogènes et faire ensuite que cette soupe puisse ensuite être livrée chez des méthaniseurs locaux. Donc, comme je le disais, il va y en avoir deux à Saint-Berthevin, là, bientôt, et puis il y en a quelques-uns autour de la ville de Laval. Et donc, arrivé chez le méthaniseur, production de biogaz, et puis ensuite, le digestat va pouvoir être transmis à des agriculteurs qui vont l'utiliser. Donc ça, c'est pour le process, on va dire, de tout ce qui est, de tout ce qui sera collecté et qui sera ensuite amené, emballé chez nous à Saint-Berthevin. Et pour tout ce qui est compostable, et nous, on peut par exemple avoir de la matière qui n'a pas d'intérêt à être méthanisée et qui va aller au compost. Donc Anne-Sophie va pouvoir nous dire un peu comment ça va se passer.
Donc, en effet, il y a une part de biodéchets qui n'a pas forcément intérêt de passer dans un déconditionneur, voilà, ou ni de pouvoir méthanogène. Du coup, ces flux, en fait, seraient plutôt gérés donc, sur notre plateforme de compostage, qui est une plateforme de compostage qui est basée à Bouchamps-l'Écran. Là, en fait, quand on arrive sur la plateforme de compostage, il y a une vérification du tri qui est faite, mais les biodéchets sont censés, et ce qui est le cas aujourd'hui, sont triés à la source. Donc on a plutôt une bonne qualité de tri. Mais en tout cas, notre rôle, c'est quand même de vérifier ce tri. Et ensuite, la recette, pour faire simple, c'est qu'on ajoute 50% à peu près de volume de déchets, alors ce qu'on appelle plutôt des végétaux, hein, puisque voilà, c'est une ressource carbonée qui vient des lagueurs, de collectivités, etc., en broyat. Et donc, 50% de végétaux, 50% de biodéchets alimentaires. On accède aussi à l'hygiénisation de cette matière. Hein. Alors, le procédé est différent dans méthanisation, puisque en méthanisation, on est plutôt sur 1 heure à 70 degrés. Nous, on va être sur un processus beaucoup plus long, puisqu'on va être à 60 degrés pendant 7 jours. Et donc là, on part sur un process qui dure aussi à la différence plusieurs mois, puisque là, on va au rythme de la nature, on va dire. On peut avoir une dernière étape qui est le criblage de cette matière. Hein. C'est une façon de tamiser la matière, pour faire simple. Et puis, on va aussi faire des analyses de cette matière pour prouver en fait sa propreté et également de lui donner ses valeurs agronomiques pour les utilisateurs finaux.
Vous avez parlé tous les deux de biodéchets qui auraient un pouvoir méthanogène. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
La viande, par exemple, c'est très méthanogène. Les courgettes, les carottes, c'est plutôt bien pour le compostage, si je caricature encore une fois.
Et puis alors, voilà, par exemple, en compostage, on peut aussi accueillir des coquillages, voilà, ce qui n'est pas possible en méthanisation.
Tout à fait.
Donc, y a quand même des différences...
complémentaires.
Voilà, exactement.
Tout à fait. Ok, je propose qu'on fasse une première pause musicale avec Résiste de France Gall avant de revenir sur ce projet de filière biodéchets.
Suis ton cœur qui
les rendez-vous de la PES, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de la PES sur l'autre radio, en compagnie de Saïd Abouali, donc directeur général d'Alternatrie 53, et d'Anne-Sophie Brien, qui est la cofondatrice de l'entreprise Les Pieds sur Terre. Vous êtes avec De l'Assiette au Champ, trois structures à avoir initié ce projet de structuration de la filière des biodéchets en Mayenne. Saïd, tu as dit tout à l'heure que vous souhaitiez en faire un projet exhaustif et notamment faire participer les autres acteurs sur la thématique. Tu as cité notamment les méthaniseurs, les producteurs de biodéchets, le conseil départemental. Et moi, j'aimerais bien savoir voilà, quels sont les différents acteurs, si jamais il y en a d'autres. Et puis, comment se répartissent les rôles déjà entre vos trois structures, qui fait quoi? Et comment est-ce que ça s'articule avec les autres acteurs sur le territoire?
Alors, effectivement, des acteurs, il y en a d'autres, hein, puisqu'on a mis autour de la table ce qu'on appelle dans le jargon des EPCI, hein, c'est-à-dire des communautés de communes. Il y a eu Laval Aglo, notamment, qui a participé, mais qui a laissé un peu le conseil départemental reprendre la main sur ce sujet-là, étant donné que, comme l'avait dit Anne-Sophie tout à l'heure, la compétence de traitement de déchets est une exception en France. C'est le département qui l'a. Hein, ça reste assez exceptionnel. Donc c'est le conseil départemental qui a cette compétence de traitement des déchets. Et donc le conseil départemental nous accompagne depuis le départ, hein, depuis vraiment l'émergence de cette idée. Ils nous accompagnent bien sûr par leur présence, mais également financièrement. Puisqu'ils sont en train aujourd'hui de nous financer une partie de l'étude que l'on est en train de mener, et notamment de la structuration de ce groupement. Et donc, autour de la table, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les méthaniseurs, notamment l'Association des méthaniseurs de France qui est avec nous. Et la porte est ouverte, bien sûr, à un maximum de bonne volonté pour pouvoir faire émerger cette filière de biodéchets en Mayenne.
D'accord. Et Anne-Sophie, Brien, est-ce que tu veux nous dire un petit peu entre voilà, vos trois structures, qui fera quoi en fait une fois que le projet sera lancé avec l'installation d'un déconditionneur et d'un hygiénisateur? Comment est-ce que les tâches se répartiront entre ces structures?
Alors, c'est encore à travailler. Aujourd'hui, en fait, on en est sur la structuration juridique en fait du projet. Donc, y a encore beaucoup d'étapes à passer et beaucoup aussi d'échanges à avoir entre nous pour justement regarder quels vont être les flux, les synergies de territoire qu'on va pouvoir chacun du coup apporter. Et défendre. Pour l'instant, vraiment, on en est quand même sur... on est encore sur une phase de démarrage du projet. Il est encore trop tôt pour avancer en fait, la répartition des tâches entre chacun.
D'accord. Donc là, tu dis que vous en êtes au démarrage. Quelles sont en fait les prochaines étapes que vous attendez? Qu'est-ce qui va se mettre en place dans les prochains mois, par exemple?
Alors, les prochaines étapes, actuellement, là, on est sur, comme le disait Anne-Sophie, sur la structuration juridique. Donc, l'idée, c'est de constituer un outil juridique. Donc, est-ce que c'est une SIC? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce qu'on est en train de travailler là-dessus avec les différents partenaires? Et puis ensuite, ça va être d'aller chercher des financements pour venir financer cet outil. Parce que justement, pour aller chercher les financements, il faut d'abord avoir une structure juridique. Et puis en parallèle, bien sûr, c'est de travailler avec nos différents partenaires pour savoir comment vont se répartir, comme tu le disais tout à l'heure, les rôles de chacun et les tâches de chacun.
Et du coup, il y a vraiment donc l'idée va être d'installer, de construire un déconditionneur et un hygiénisateur en Mayenne par lequel transiteront les déchets qui auront besoin d'être déconditionnés.
C'est ça. Alors, le principe, on le connaît, puisqu'il est aujourd'hui, comme je le disais, en fonctionnement à Nantes. Maintenant, la machine, exactement, on va pouvoir la définir en fonction justement du flux du gisement, de la quantité de gisement. On sait qu'en Mayenne, puisqu'il y a une étude qui a été menée par de l'Assiette au Champ, une étude de gisement sur tout le département. On sait qu'il y a à peu près 10 000 tonnes de biodéchets. Nous, on vise le traitement de 3 000 à 4 000 tonnes pour commencer, pour voir justement si notre outil n'est pas trop important ou pas assez. Mais on vise cette quantité-là parce qu'elle nous paraît être raisonnable.
D'accord. Et donc quand tu parles de cette quantité de 10 000 tonnes de biodéchets sur le département, c'est en comptant à la fois les acteurs professionnels, aussi les acteurs particuliers, ou ils sont exclus de ce dispositif ?
Ça concerne en fait les professionnels. Mmh. Les particuliers, on est à peu près à 26 000 tonnes annuelles.
D'accord. Ok, donc en Mayenne, les biodéchets de particuliers sont plutôt collectés ou alors compostés in situ
Aujourd'hui, en fait, ce sont les EPCI, donc les communautés de communes, qui ont la responsabilité en fait d'accompagner les particuliers sur ces solutions. Et aujourd'hui, les collectivités ont majoritairement fait le choix, voire toutes d'ailleurs, de vraiment essayer à ce que les particuliers gardent leurs biodéchets en fait vraiment au plus proche de leur production, donc on va dire à la maison. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les communautés de communes favorisent parfois la distribution de composteurs ou la formation au compostage domestique. Certaines communautés de communes font aussi des expérimentations sur du compostage de quartier. C'est le cas à Laval Agglomération, par exemple. C'est le cas à Château-Gontier. Et on a également des collectivités, comme par exemple le Pays de Cran, que je connais bien aussi, parce que c'est notre territoire d'implantation, qui expérimentent en fait des points d'apport volontaires de biodéchets dans certains quartiers où le compostage domestique n'est pas possible, soit parce qu'on est sur de l'habitat collectif où il n'y a pas de jardin. Voilà, donc toutes les solutions, on va dire, sont identifiées. Maintenant, il reste à les expérimenter, à les pérenniser sur les territoires. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aucune collectivité, même plus largement en France, très peu de collectivités, il y en a quand même certaines. Je peux citer notamment la ville de Lorient, par exemple, qui fait de la collecte en porte-à-porte de biodéchets depuis plus de 10 ans. Mais il y a très très peu de collectivités qui se lancent sur ce schéma, qui reste un schéma très très onéreux à l'échelle de la collectivité.
Oui, et puis on n'évite pas vraiment les transports, du coup,
exactement.
Si on fait une collecte comme ça. D'accord. Et en parlant de transport, ça me refait penser au processus de méthanisation, donc par lequel on va avoir une production de méthane, de biogaz. Mmh. Quelle quantité ça représente exactement ? Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça vous paraît vraiment être un enjeu important, cette production de biogaz ? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas le cœur de la méthanisation, mais plutôt là, ce qui vous intéresse, le côté digesta et retour au sol pour les agriculteurs ?
Alors, pour la méthanisation, la fabrication et la production de gaz est quelque chose, effectivement, de très important. L'ordre de grandeur que j'ai, enfin, que Paul m'a transmis, puisqu'ils ont fait des calculs avec notamment des modèles de l'ADEME, c'est qu'en méthanisation, on produit 4 à 5 fois plus d'énergie qu'on en consomme pendant la collecte et pendant le pré-traitement et le traitement.
D'accord.
Donc, ce qui veut dire que cette production d'énergie, elle est quand même très importante. Le tout, c'est qu'elle puisse se faire, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec des biodéchets qui sont méthanogènes et qui puissent apporter un plus au méthaniseur. L'objectif, quand même aussi, de donner un accès à cette matière au méthaniseur, c'est d'éviter qu'il fasse... De la culture de maïs pour donner à manger aux méthaniseurs. Mmh. Parce que malheureusement, aujourd'hui, un grand nombre de méthaniseurs fonctionnent avec des cultures. Et l'objectif, c'est d'éviter qu'ils continuent, en tout cas, à utiliser des cultures pour faire fonctionner leurs méthaniseurs. Et si on peut leur donner accès à toute cette matière qui, jusque-là, allait en incinération, ben, ce serait vraiment l'idéal. Ce que je voulais exprimer aussi tout à l'heure, c'est que Laval Agglo effectivement a décidé de mettre en place des composteurs en pied d'immeuble des composteurs également dans les jardins des personnes, etc. Mais il reste de toute façon, comme tu le disais, le centre-ville, par exemple, qui est extrêmement dense, où il va falloir réfléchir. Sauf que là, pour l'instant, c'est trop tôt. Les EPCI ont des objectifs à atteindre et ils ont un certain timing, un certain délai pour les atteindre. Donc pour l'instant, ils vont au plus simple. Et puis au fur et à mesure, il va falloir de toute façon s'attaquer aux parties les plus difficiles. Et là, il va falloir trouver des solutions de collecte, de compostage ou autres, en tout cas, qui soient différentes de celles qui aujourd'hui sont mises en œuvre.
Oui. Et tu parles de collecte. J'ai vu, alors, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu des points d'apport volontaires qui ont été installés donc, pour les professionnels. Oui. À Laval. Oui. Est-ce que vous avez des informations
Alors,
là-dessus ?
On a initié avec de l'Assiette au Champ un projet là, qui est en cours, hein, puisque effectivement le point de collecte est installé. On s'est rapproché de PromoCash qui a effectivement aussi participé à cette action, puisque le point de collecte, on l'a installé sur le parking de PromoCash. L'idée est que les restaurateurs qui vont faire leurs courses à PromoCash, et Dieu sait qu'il y en a, viennent avec leurs biodéchets, déposent leurs biodéchets et repartent avec leurs courses. ce qui leur simplifie effectivement la tâche et ce qui permet d'éviter de facturer de la collecte. Il ne reste plus que la partie traitement du biodéchet. Donc cette expérimentation, elle est financée en partie par le conseil départemental pour l'essayer, pour voir ce que ça donne. On a également encore sous le coude un autre point d'apport qui pourrait être testé, ce serait sur la place de la Trémoille, pour avoir un point central pour les restaurateurs du centre-ville. Pour ça, il reste encore quelques autorisations à avoir, mais ce sera certainement le prochain point d'apport collectif qui sera mis en place.
D'accord, oui, une bonne expérimentation. Oui. Et pour les producteurs de biodéchets, donc une fois que le projet sera plus avancé, comment est-ce que vous imaginez l'organisation ? Peut-être Anne-Sophie Brien, tu peux... nous dire ce que tu en penses. Est-ce que pour les producteurs, ça sera volontaire ? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir le plus grand nombre de producteurs à vous transmettre, à vous confier ces biodéchets ou rester sur une échelle plus réduite ? Comment est-ce que ça s'imagine ?
En fait, nous, le projet, il a deux sens, en fait, si on reste sur un périmètre, on va dire, local, raisonnable, en fait. Sinon, ça n'a pas de sens, parce que ça veut dire, sinon, on va reproduire ce qu'on peut reprocher parfois à certains grands acteurs, voilà, en parcourant des centaines de kilomètres. En fait, pour l'instant, ce qu'il faut surtout, en fait, c'est qu'il y ait du sens, en fait, dans la gestion du flux du biodéchet. Ça reste vraiment à affiner parce que parfois, encore une fois, en fonction de la distance, en fonction de la nature du biodéchet, voilà, on a un territoire qui est quand même assez étendu aussi hein, en diagonale. Donc, en fait, c'est tous ces paramètres-là qui doivent être un peu moulinés pour conseiller et pour recommander fortement aux producteurs de biodéchets la solution qui aura le plus de sens financièrement parlant pour lui, parce que voilà, ça reste des coûts de prestation pour les producteurs de biodéchets, et qui aura le plus de sens aussi pour l'environnement. Donc c'est vraiment ce qui, j'espère, guidera en fait l'ensemble des échanges que l'on aura avec les différents partenaires pour justement voilà, faire des recommandations aux partenaires cibles.
Ok. Est-ce qu'il y a des éléments quels sont les éléments de contrainte pour vous dans le développement de ce projet et après pour la bonne gestion des biodéchets ? Saïd Awali.
Les éléments de contrainte sur un projet comme celui-ci, c'est déjà le financement. Ça, c'est évident. Après, il y a également la partie, on va dire, réglementaire. Mais pour ça, il y a des solutions. Il faut juste faire les choses dans le bon ordre. Mais sinon, l'autre contrainte, c'est d'espérer effectivement que le gisement qu'on a identifié soit bien présent et qu'il puisse bien venir alimenter l'outil. Je voulais rajouter tout à l'heure que Anne-Sophie disait qu'effectivement, il faut analyser les différentes choses. Et on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, les plateformes de compostage, c'est quelque chose qu'il faut installer au plus près des producteurs de déchets. Et donc là, les pieds sur terre, on en a une dans le sud de la Mayenne. On peut très bien envisager d'en avoir une dans le nord et d'avoir cet outil qui, lui, est central, puisqu'on a la chance d'être à Saint-Berthevin. On est central par rapport au département et d'avoir les biodéchets conditionnés qui arrivent au centre des départements. Et donc, en mettant en œuvre, en tout cas, ces différentes solutions, on va certainement pouvoir apporter des modèles différents de ce qui existe ailleurs et adapter vraiment à notre territoire. Oui. Parce que ce n'est pas facile hein, d'aller jusqu'au mont des Avaloirs ou jusqu'à l'autre bout de la Mayenne. Ce n'est pas évident. Et puis, ça fait beaucoup d'émissions de carbone pour aller chercher quelques kilos de biodéchets. Quoi, hein.
Oui, c'est sûr. Ouais. Et donc là, ce que tu disais, qu'il y a une plateforme de compostage en sud Mayenne, mais finalement, des plateformes de compostage de ce type-là, est-ce que c'est la seule qu'il y a actuellement en Mayenne ou est-ce qu'il y en a déjà disponible pour les agriculteurs, les gros producteurs de biodéchets sur le territoire?
Alors, à ma connaissance, du coup, en plateforme de compostage de déchets alimentaires, c'est la seule. Il existe déjà sur le territoire, notamment à Martigny-sur-Mayenne, une des plateformes de compostage de déchets verts, qui est une vraie solution aussi pour traiter en fait, les végétaux des collectivités notamment. Voilà, mais on n'obtient pas, c'est pas le même produit final. Hein. Mais du coup, voilà, des plateformes de compostage, il en existe sur le territoire quelques-unes. Mais en compostant du déchet alimentaire avec un agrément sanitaire autorisant le déchet alimentaire, je pense ne pas me tromper qu'on est la seule. Et en fait, c'est quand même une chance pour le département de la Mayenne parce que il faut savoir quand même que tous les départements n'ont pas de solution. Qu'on soit en méthanisation ou en compostage, il y a des départements sur lesquels aujourd'hui, il est très difficile pour les producteurs d'être en conformité avec la loi parce que, en fait, même s'ils veulent trier leurs biodéchets, il n'y a pas de solution de territoire qui existe. Donc, on peut quand même se dire que c'est quand même une chance en Mayenne d'avoir des acteurs qui se mobilisent sur le sujet, qui en plus cherchent à travailler ensemble pour optimiser, comme on l'a dit tout à l'heure, les coûts, que c'est du sens pour l'environnement, que ça réponde aussi à différents besoins des utilisateurs des produits finis. Voilà, c'est vraiment encore une fois une chance en Mayenne d'avoir ces projets-là.
Merci Anne-Sophie Bréhien et Saïd Abouali pour toutes ces informations donc sur la structuration de la filière des biodéchets en Mayenne. On va maintenant écouter Avisaï Cohen avant de revenir sur les ondes de l'autre radio.
Merci.
Thank you.
les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Nous revoilà dans les rendez-vous de la peste sur les ondes de l'autre radio. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec Anne-Sophie Brien, qui est la cofondatrice de l'entreprise Les Pieds sur Terre, et Saïd Abouali, le directeur général d'Alternatrice 53. Juste avant, Saïd et Anne-Sophie, vous nous parliez des différentes étapes à venir pour le projet de structuration de la filière des biodéchets sur lequel vous travaillez en Mayenne. Donc, si j'ai bien compris, vous en êtes là à la phase de la structuration juridique, de la recherche de financement pour ce projet. Et j'ai aussi entendu parler d'une construction. Saïd Abouali, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, effectivement, pour accueillir les deux machines dont on a parlé tout à l'heure, le déconditionneur et l'hygiéniseur, on va effectivement construire un bâtiment sur notre terrain à Saint-Berthevin qui accueillera ces deux machines et qui permettra à nos salariés de travailler dans cet atelier. Et ce bâtiment va s'inscrire aussi dans le projet de la création de la ferme solaire qu'on veut faire sur notre bâtiment à Saint-Berthevin, puisqu'on a 22 000 m² de terrain et 4 500 m² de bâtiment. Et on souhaite couvrir la totalité de notre bâtiment, plus le nouveau qu'on va construire, plus encore une ombrière. Donc on va être un gros producteur d'énergie solaire aussi.
D'énergie renouvelable, d'accord. Et donc ça, ça commence là d'ici la fin de l'année, ce projet-là.
C'est ce qu'on espère, oui.
D'accord, ok, bon, je vous le souhaite. Et je vais vous demander à tous les deux, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent sur comment bien gérer ces biodéchets ? Anne-Sophie Bréhin, une idée ?
Moi, en fait, du coup, je conseille aux gens de ne pas se mettre la pression, en fait, et d'y aller par étapes. Tout ce qui sera détourné, en fait, de la poubelle grise sera déjà très bien. Et je pense qu'en fait, voilà, il ne faut pas s'affoler sur le fait de devoir demain gérer différemment ces biodéchets, mais d'y aller par étapes, c'est une façon plus sereine d'aborder le sujet. Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est un sujet aussi qui doit être partagé parce que en fait, il y a plein de pratiques. Alors là, quand je parle de ça, je parle plutôt à la maison, hein, mais qui peuvent être un peu différentes. Et voilà, je pense qu'il faut... Faut pas que ce soit un sujet tabou et reboutant, mais au contraire, l'aborder de façon vraiment pédagogique parce que voilà, on apprend beaucoup de la nature en jardinage, mais aussi dans la gestion de ses biodéchets. Voilà, donc c'est le conseil que je donnerais.
Merci Anne-Sophie.
Je pourrais ajouter, c'est surtout pour les personnes qui ont une maison en centre-ville et qui ont un jardin, de ne pas avoir peur de composter dans le fond de son jardin, parce que j'entends beaucoup les personnes qui n'ont pas cette habitude de se dire « mais composter, ça attire des nuisibles, ça fait des odeurs, etc. » Ça fait je ne sais pas combien d'années que j'habite dans le centre-ville de Laval, je composte depuis de nombreuses années et j'ai des poules qui permettent aussi d'éliminer un certain nombre de déchets. Donc les personnes peuvent aussi se permettre d'avoir deux ou trois poules dans leur jardin et ça fait du bien à tout le monde.
Merci. Et je vous propose maintenant un petit exercice et je vais vous donner des mots à l'un et à l'autre, et vous allez me dire ce que ça représente pour vous. Alors, je commence avec toi, Saïd, par exemple. Un déchet, pour toi, qu'est-ce que c'est ?
Un déchet, c'est une ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut surtout arrêter de s'imaginer que le déchet, on doit l'enfouir, on doit le brûler. Aujourd'hui, un déchet, on doit pouvoir le traiter comme une ressource et une nouvelle matière première.
Anne-Sophie ? Pour toi, la valorisation, c'est ?
La valorisation, c'est donner une seconde vie à une matière qui n'a plus sa première utilité.
Mm-hmm. Saïd, coopérer pour toi, c'est ?
Ah, c'est coopérer, c'est le meilleur mot que l'on puisse choisir. Mm-hmm. C'est pour moi la force que l'on a tous de pouvoir créer des choses ensemble. Et il faut vraiment faire la promotion de la coopération, contrairement au capitalisme qui nous emmène plus sur de la concurrence et de la compétition.
Anne-Sophie Bréhin, pour toi, le local, c'est ?
Le local, c'est un périmètre qui est raisonnable en fonction de là où on habite. C'est-à-dire que le local mayennais, pour moi, est différent du local citadin. Mais en tout cas, c'est celui qui permet d'agir de façon cohérente.
Mmh. Ok. Est-ce que vous avez des actualités à partager maintenant que vous êtes sur les ondes de l'autre radio pour vos structures ?
Oui. Alors pour Alternatrice 53, notre AG qui a lieu demain soir va nous permettre notamment de officialiser notre labellisation Régie de quartier, parce que nous avons eu la chance d'avoir été labellisés au mois de février. Et donc on sera la première Régie de quartier du département de la Mayenne pour la ville de Laval. Nous allons ouvrir un bureau sur le quartier des Fourches, puisque c'est dans ce quartier que l'on va commencer notre travail de lien social. En fait, on va ajouter à nos quatre activités d'aujourd'hui, nos quatre activités que sont la collecte, le tri, la propreté et les espaces verts, on va ajouter une activité de lien social pour travailler avec les habitants des quartiers et les amener à se rencontrer, se connaître et faire des projets ensemble.
Beau programme. Anne-Sophie, est-ce que vous avez des actualités ?
Oui, alors là notamment, on sort il y a quelques jours en fait du séminaire national du réseau Compost In Situ. Donc c'est une association nationale qui regroupe en fait des structures qui, comme nous, avons à cœur le retour au sol de la matière organique sur nos territoires. Et du coup, nous avons reçu ce séminaire chez nous, sur nos terres, donc avec grande fierté. Et c'est un bel événement où nous avons eu la chance aussi d'accueillir la référente nationale ADEME sur le biodéchet, qui lui a permis de voir concrètement voilà, les solutions de territoire qui existent et qui se mettent en forme sur le territoire de la Mayenne. Et puis une deuxième actualité, voilà, forcément toutes les semaines on a des établissements qui rejoignent la démarche, et je note par exemple que cette semaine on va démarrer avec l'école Eugène Herry du centre-ville de Laval, qui aura en plus la particularité d'être collectée à vélo avec Charles-Antoine Lelièvre, qui est notre collecteur à vélo du centre-ville de Laval. Donc de la mobilité douce, ça a aussi beaucoup de sens quand on parle de biodéchets.
Merci, j'en profite pour partager aussi les actualités de l'APES 53. Le mardi 21 mai, le midi, on propose une visio sur comment entreprendre autrement et pour découvrir l'économie sociale et solidaire. On propose aussi une permanence expert comptable le vendredi 31 mai au matin pour les adhérents de l'APES, et une permanence avocat le vendredi 28 juin, le matin également. Donc de belles occasions pour poser vos questions à des experts comptables ou à des avocats et avocates. Merci en tout cas Saïd Abouali et Anne-Sophie Bréhin d'avoir accepté notre invitation pour présenter ce projet de structuration de la filière des biodéchets en Mayenne. On vous souhaite une belle réussite dans cette initiative.
Merci beaucoup Jeanne. Merci Saïd.
Merci.
Bonne soirée à tous.